pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Et nous poursuivons avec Beto Pienali, secrétaire du syndicat du métro de Buenos Aires et responsable de la centrale de Trabajadores et Trabajadoras de Argentina.
Et lors du gouvernement de Kirchner, qui essayait de justement de mettre en place une redistribution, etc., il y a une politique d'État de redistribution. Le gouvernement faisait que l'accord du syndicat n'était plus valable et obliger la direction du syndicat de signer l'accord que nous on voulait avec nos revendications. Ça, ça a été très traumatisant. Par exemple, les grèves, les piquets de grève dans le terminus du métro, des lignes. Les travailleurs d'un côté, ceux du syndicat de l'autre côté, et plein de policiers, de flics au milieu, pour qu'on ne se tue pas. Bon, malgré tout ça, il y a eu des blessés, il y a eu dans les bagarres. Donc la confrontation au sein du syndicat en Argentine peut être très forte. Pendant le gouvernement des Kirchner, et que, donc avec cette politique qui favorisait des meilleures conditions de vie, de travail, nous on est sortis pour se battre. D'abord, pour récupérer une réduction du temps de travail qu'on avait avant la période néolibérale de Menem. À l'époque, on travaillait 36 heures. Et après Menem, enfin avec Menem, on est passé de 36 à 48 heures. Et du coup, on a commencé la lutte pour exiger qu'on revienne à 36 heures. Et on l'a gagné. Et d'ailleurs, même des secteurs qui ne travaillaient pas 36 heures, à l'époque, donc avant Menem, même comme ça, pour tout le monde, c'était 36 heures. Et tout de suite après, quand les négociations salariales se sont ouvertes, on venait vraiment dans une dynamique de lutte importante. Ça a été une table de négociation où en moyenne tous les organisations syndicales, donc une augmentation de 18%. Nous, on a eu une augmentation de salaire de 52%. Et nos salaires, ils ont bondi et vraiment, ils ont eu une augmentation quantitative importante. Donc, on a fini par obtenir et la réduction du temps de travail et l'augmentation de 52% du salaire. 4 jours pour la réduction du temps de travail. On commençait par une grève de 2 heures. Ensuite, on passait à 3 heures. 4, 5 et 6. Et en fait, 6 heures de grève, enfin, toute la journée de travail.
24 horas, entonces,
et du coup, tous les jours. Et voilà. Et deux jours de plus, etc. Et en fait, on a fait une grève temps indéterminé. Mais proposé d'une façon un peu différente. Au cas où on s'épuise, qu'on puisse reculer d'un pas avec la tête haute, quoi. Et tout de suite après ça, et donc un processus de ce qui s'était passé dans les années 90 dans toute l'Argentine. Il y a eu l'externalisation des postes de travail.
Por ejemplo, l'Argentina,
en Argentine, historiquement,
los contratos laborales,
les contrats de travail,
eran contratos que emprendía.
Tous ceux qui travaillaient dans la boîte, tous, ils avaient le même contrat, quoi. Enfin, c'était même employeur, même du nettoyage jusqu'à la sécurité, en passant par la production.
Bueno, la década del 90,
dans les années 90,
ponen,
il y a une imposition de conditions de travail. Il va y avoir la externalisation de certains secteurs. Nettoyage, sécurité, maintenance. Quand il y a externalisation, ils vont évidemment gagner moins. Et ils ont d'autres accords. Et ils vont en plus être dans un autre syndicat. Il va y avoir une division. Tout ça, ça a été la conséquence des mesures économiques des années 90. Dans le métro, c'était pareil. Et du coup, après ces deux... Alors, il dit deux conflits, moi j'ai envie de dire après ces deux victoires. Les travailleurs qui étaient externalisés, ils disaient, mais moi aussi, je veux travailler 36 heures. Moi aussi, je veux une augmentation de 52% du salaire. On a réussi à obtenir la représentation au-delà du cadre légal. Et en fait, on a organisé des grèves avec eux et elles pour justement exiger que ces travailleurs-là et ces travailleuses-là reviennent à l'accord collectif du métro. Et on a réussi. Si je devais faire un bilan, c'est pas qu'on était des super champions et championnes, c'est que la seule vertu, c'est qu'on a compris en fait le moment politique. Et là, on a tout misé à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a réussi à avancer les salaires, les conditions de travail. Alors, on ne discute pas le salaire à échelle nationale avec Milei. Ça fait 10 ans qu'on le discute avec le gouvernement de la ville de Buenos Aires. C'est le macrisme hein, qui a les manettes de la ville de Buenos Aires, mais bon, c'est quand même moins mauvais que Milei, quoi. Tout ce processus d'hyperinflation, on a eu tous les mois des accords d'augmentation de salaire, tous les mois de tables de négociation. Donc un mois, donc à un coup, on avait 10% de plus. On suivait l'inflation. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de chute de salaire depuis la fin du gouvernement de Cristina Kirchner. Mais on a quand même perdu du pouvoir d'achat. Parce que comment on mesure l'inflation en Argentine, c'est la même grille de calcul qu'il y a 20 ans quand les choses elles ont changé. Ça ne prend pas en compte le loyer, tout ce qui est téléphone portable, l'internet, tout ça.
De bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe.
suite et nous poursuivons avec Beto Pienali, secrétaire du syndicat du métro de Buenos Aires et responsable de la centrale de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina.
Donc oui, en Amérique latine, on vit ça. C'est un nouveau mécanisme qui utilise la classe dominante pour diaboliser les dirigeants populaires. Les moyens de communication mentent. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec Cristina Kirchner, justement, puisque hier, il n'y a pas une seule preuve dans le procès qui montre qu'elle a agi de façon corrompue. Et malgré qu'il n'y ait pas de preuves, elle a été condamnée à 5 ans de prison et inéligibilité à vie. Le mécanisme que la classe dominante et les États-Unis a utilisé dans les années 60 et 70, ça a été les coups d'État. Avec l'armée, ils ont utilisé l'armée pour provoquer des coups d'État. Aujourd'hui, ils utilisent le pouvoir judiciaire et l'appareil médiatique. C'est pour ça que Lula a été en prison. Correa ne peut plus revenir en Équateur parce que sinon il est arrêté. On lui crée des accusations. Et hier, Cristina a été condamnée. L'Argentine est un pays dynamique. La situation d'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'éléments parce que la condamnation de Cristina qui a eu lieu hier a provoqué un processus de mobilisation. Il y a tous les accès à Buenos Aires qui sont bloqués. Tout le mouvement syndical, les trois organisations syndicales dénoncent la situation et tous les partis politiques de gauche disent que c'est une agression à la démocratie. Donc là, il y a une grosse mobilisation. Dans une heure, justement, devant la maison de Cristina, du coup, il y a un appel à rassemblement devant la maison. Et on ne sait pas comment ça finit. Mais ce qui est intéressant, c'est que en fait, personne n'est dupe non plus du personnage de Cristina, quoi. Enfin, mais il y a quand même un soutien parce que c'est contre, c'est une attaque à la démocratie. Voilà comment c'est lu, quoi. Donc hier, Myriam, qui est une députée du PTS, voilà. Merci. Ouais, c'est révolution permanente. Donc elle-même, qui en fait, ça a toujours été contre Cristina, etc. Mais elle est allée soutenir personnellement chez la fille de Cristina, la soutenir, etc. La réalité argentine est vraiment change énormément. Donc avec l'ouverture économique que Milei a mis en place, il dit aux capitaux, mais venez, mais les capitaux parasitaires et même les capitaux des narcotrafiquants, hein, mais venez en Argentine faire du business. Mais en fait, ils ne viennent pas. Avec Macri, ils sont venus, mais avec Milei, ils ne viennent pas. Parce que justement, en fait, ils n'ont pas confiance qu'ils soient capables d'avoir une stabilité en Argentine. En fait, aujourd'hui, financièrement, l'Argentine est aussi intéressante qu'un paradis fiscal. C'est comme un paradis fiscal. Là, il y a une loi qui vient de sortir. Tu peux déposer jusqu'à 100 000 dollars en Argentine sans aucune explication. Pourquoi ils ne viennent pas ? Parce que les îles, par exemple, dans les îles Caïmans, il y a une stabilité politique, économique, il ne se passe rien, quoi. Et en Argentine, on ne peut pas prévoir. Et les grandes entreprises commencent à partir, à quitter l'Argentine. Si, par exemple, les industries des pneus, il y a les mêmes entreprises, les mêmes usines au Brésil.
mano de obra más barata.
C'est beaucoup plus intéressant. Voilà, je vais importer du Brésil, main d'œuvre moins chère. Et du coup, les usines en Argentine commencent à fermer.
Alors, je me posais la question sur les 30% des voix de la population précarisée ou très pauvre qui a voté pour Milei, si aujourd'hui il y a un changement d'avis ou pas, et le lien avec les églises évangéliques, parce qu'en Amérique latine, il y a un poids très fort de ces églises et que c'est un truc très politisé dans les quartiers populaires pour voter à droite, extrême droite, quoi. Donc, je me disais quel est le lien entre tout ça et si ça change ou ça reste pareil.
Aujourd'hui, Milei, il continue pratiquement à avoir le même soutien. Et il a absorbé en plus, il a récupéré toutes les voix, tout le soutien de la droite classique. D'ailleurs, il est en train, on peut voir qu'il détruit le parti de Macri, le PRO. Les dirigeants du PRO passent du côté de Milei. Sa base sociale, ses votants, ils continuent à le soutenir. Les sondages lui donnent entre 40 et 44% de soutien. Plus que le 30, puisqu'il a capitalisé les voix de la droite classique. Pourquoi ? Si toi, tu n'as pas de salaire. Si tu vis des aides sociales. En plus des aides de l'État, tu pouvais compter sur des organisations comme par exemple les églises pour voilà, tu avais des sacs d'aliments. Qu'est-ce qu'il a fait Milei? Sacs d'aliments, il y en a plus. Parce que ça doit être distribué par quelqu'un. Et ça, il faut une organisation qui distribue. Pour justement détruire les organisations, il n'y a plus de distribution d'aliments. Il n'y a pas non plus de distribution d'aliments pour aider les soupes populaires. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a deux aides sociales pour ces secteurs-là. Donc, les allocations familiales et la carte alimentaire. Ce que tu touches avec ces deux aides, c'est au-dessus de l'inflation. C'est rien, mais... C'est 100 euros. Mais que tu n'as pas perdu puisque ça suivait au-dessus de l'inflation. Donc ce que l'État donne directement aux plus pauvres, il a maintenu ces aides-là au-dessus de l'inflation. Et il a enlevé tout ce qui était des aides par d'autres voies. Ce qu'on appelle le salaire différé, justement. Le transport, ou l'électricité, ou le gaz. Les tarifs étaient vraiment minuscules en Argentine. Un ticket de métro, c'était 0,05 $. Aujourd'hui, c'est 1 $. C'est comme ailleurs dans le monde, quoi. Enfin, c'est vraiment la lumière, l'électricité, le gaz que tu payais 20 euros tous les 2 mois. Maintenant, ça a grimpé de 400%. Ce secteur-là, il ne paye pas de loyer. Parce qu'ils ne payent pas. En fait, ils font des branchements illégaux. Il n'est pas touché par ces augmentations-là comme est touchée la majorité de la population. Et ça également, on était avec une inflation de 200%. Celui qui n'a rien, il est impossible de vivre avec une inflation de 200%. Il n'y a pas de façon de faire. C'est intolérable, la vie devient intolérable. Aujourd'hui, on a une inflation qui continue à être élevée, hein, 48%, mais c'est pas la même chose que 200%, quoi. Qu'est-ce qu'ils disent, justement, cette couche de populaire paupérisée? Il y a eu des élections dans la capitale, à Buenos Aires. Il y a moins d'un mois où il y a eu des élections.
Justement.
Et moi, j'ai croisé des gens qui avaient voté Milei. Qui vit dans un quartier où les logements, justement, ont été faits sous le gouvernement de Cristina. Et ils avaient acquisition de la maison pour un montant dérisoire. Voilà, moi je suis allée voter dans la ville de Buenos Aires pour le candidat de Milei.
Mais
on est très très mal.
Mais
ouais, on va pas bien, ouais, on va mal. Mais l'inflation, elle a baissé. Aux autres, les autres là, je les connais déjà.
Et
du coup là, ça, on mélange l'analyse qu'on avait faite au début, justement, les années d'austérité plus le loafer. Il faut lui donner du temps. C'est une phrase mondialement connue. Il faut leur laisser du temps. Donc, la capitale Donc, la ville de Buenos Aires, qui a gagné, du coup, ça faisait 18 ans que la droite gouvernait la ville de Buenos Aires. La droite de Macri. Milei présente une autre liste, un autre candidat. Et Milei a gagné. Enfin, le candidat de Milei a gagné. En deuxième place, le péronisme. Et la troisième place, c'est le macrisme. Donc, Milei va absorber tout ce qui arrive du pro, historiquement. Et il n'y a pas de militants. Donc, le candidat, c'était son porte-parole. Et il a gagné les élections de la ville. Donc, il maintient quand même. Il n'a pas gagné avec plus de 50. Il était juste à 3% de plus que le candidat péroniste. Mais, et qui, par ailleurs, historiquement, le péronisme n'a jamais emporté les élections de la ville de Buenos Aires. Et bon, on va voir ce qui va se passer dans l'état de Buenos Aires, dans la région de Buenos Aires. Que là, le péronisme a gagné les dernières trois élections. D'ailleurs, celle qu'à échelle nationale, le péronisme avait perdue. Là, il faut voir. Là, on pense que la droite, pour l'État de Buenos Aires, va s'unir, toute la droite. Et c'est une province, c'est un État qui est en train d'être asphyxié économiquement par l'État argentin. Et où vit 80% des Argentins et des Argentines vivent dans l'État de Buenos Aires. Et c'est la province où il y a le plus gros pourcentage de pauvres. C'est possible qu'on perde. Les évangéliques, heureusement, elles n'ont pas un poids politique en Argentine important. Elles se sont développées, mais par exemple au Brésil, oui, il y a même des députés. Mais tout ce qui est le travail social, historiquement en Argentine, c'est l'Église catholique qui fait. Et les organisations politiques et sociales, quoi, et très puissantes. Et l'Église catholique, dans les secteurs populaires, généralement, a toujours donné des curés, enfin tout ce qui est justement les curés ouvriers, quoi, les prêtres ouvriers, et qui a même donné de l'extrême gauche, même des maquisards, quoi, des guerrilleros. Il y a un courant au sein de l'Église. Donc des curés pour les pauvres, qui est très forte dans les quartiers populaires. Ouais. Donc en Uruguay, les églises évangéliques se sont assez développées et au Brésil, c'est une vraie puissance, quoi. Et ils avancent quand même en Uruguay qu'en Argentine.
Comment s'est développé les nouveaux mouvements de MeToo en l'Argentine avec les syndicats?
Le mouvement féministe en général, qui a commencé avec Ni Una Menos, qui s'est renforcé d'une façon très puissante, a traversé tous les syndicats. D'ailleurs, ceux qui sont les plus conservateurs. Moi, si je devais... Quels sont les secteurs les plus conservateurs de la société? L'un, c'est le football. C'est les syndicats, justement. Mais le féminisme, enfin le mouvement Ni Una Menos, a vraiment traversé tous les syndicats, toutes les organisations syndicales. La grande majorité mis des dirigeants et des dirigeantes, justement, un pourcentage de l'équité. Donc les plus conservateurs, 30% de femmes, et ceux les plus avancés, 50%. Mais à part ça, et d'ailleurs, il y a eu des changements des statuts, justement, pour que ce soit écrit. Il y a eu également l'arrivée de plusieurs femmes dans les postes de secrétaire général. Par exemple, la Fédération nationale de la presse, c'est une femme, c'est une camarade qui est la secrétaire générale. Les syndicats d'enseignants, enseignantes, ça fait plusieurs années que les dirigeantes sont femmes. Le syndicat des routes, c'est une femme également qui est la secrétaire générale depuis longtemps. Il y a des camarades femmes dans des postes de politique, de direction et de responsabilité. Beaucoup de syndicats ont des protocoles pour justement des cellules de veille contre la violence de genre. Il y a des comités, des cellules de veille, qu'on dirait, ouais, et qui doivent gérer s'il y a des soucis. Et ce qui, comme ils ont commencé également à travailler de façon assez importante, à partir de l'État lui-même, ce qu'on appelle la violence au travail. Donc voilà, ce sont les normes qui ont été votées par l'OIT. Et l'Argentine a été l'un des pays qui ne sont pas très nombreux, qui a ratifié lors du Congrès l'accord justement de l'OIT sur la violence au travail, de genre au travail. C'est un sujet qui traverse toutes les organisations syndicales, et évidemment avec l'avènement de Milei, ce qui a eu une offensive très très forte. Et Milei, bien sûr, a été extrêmement agressif avec le mouvement féministe en général, en faisant par exemple disparaître le ministère de l'égalité de genre, en enlevant tous les budgets de tous les tous les protocoles et toutes les outils justement de contrôle. Et également au sein des organisations politiques progressistes, ont commencé à être discutés si est-ce qu'on n'avait pas avancé trop vite. Est-ce que l'avancée des acquis féministes n'ont pas été trop puissants, trop forts et une avancée trop importante et que du coup, c'est la réaction à cette avancée féministe qui a la conséquence et des monstres comme Milei. Enfin voilà, c'est ça. Ça, c'est un débat qui nous traverse également. Ouais, aux États-Unis aussi, voilà. Tout ce que... Donc il y a le mouvement féministe avec tout le mouvement LGBTIQI plus quoi. Avant d'avoir la légalisation de l'IVG, le droit à l'IVG, il y a le mariage pour tous qui est déjà validé. Il y a également la loi sur l'identité. Ce n'est qu'après que le droit à l'IVG a été est devenu une loi. Ouais, tout ça, ça a vraiment été tout un processus très puissant, très fort. À ce moment-là, vraiment, il y a eu une utilisation en espagnol d'éviter le genre aussi bien féminin que masculin et d'utiliser le neutre. Mais c'est une invention, en fait. Parce que tu as todos, todo, toda y todé.
Chicos, chiques.
Voilà, au lieu d'enfants. Enfin, non, enfant, c'est neutre en français. Mais en espagnol, non. Tu disais un chico, una chica. Voilà, et du coup, il y a un chique. Chique. Et à un moment, on s'est rendu compte, on était tous et toutes en train de parler comme ça. Enfin, bon, bref, il y a des changements.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise sous un drap de couleur fade, contrastant ses souvenirs. Tarbeda, un embarcadère ensoleillé au départ. Une arrivée sur un ponton terne et un visage hilar. Celui d'un contremaître de l'encre, un tampon à la main, frappant le flanc de cette valise, retenant la douleur. Ses visages s'engouffrant dans un train, direction l'usine de camion pour un bien dur labeur. Les sirènes n'ont pas de voix mélodieuse, leurs appels stridents ont force à cingler leurs espoirs tels des moqueuses. Ces vestiges de période dure qu'elles gardent en elles, ces séquelles marquent son cuir et le morcelle.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, entreposée sous la poussière terre d'une vieille remise. Légère surcrue, l'on balafrait de part en part. Une étiquette fanée rappelle son premier départ. Et janvier 53, la tatouée d'un plein cap sur le froid. Au fond de ce bagage, pas d'invitation au voyage, mais la plaine de Rélizène qui pleure en fils parti gagner le droit de ne plus errer affamé. Au fond de ce bagage, la coupure tachée d'un journal où s'étale le résumé du procès des agitateurs d'une usine embrasée. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, autrefois pleine d'espoir, maintenant pleine de poussière. Si tu savais son histoire, partie de la soufrière, emportant quelques vêtements chauds pour cette terre de convoitise. La haine et la neige comme découverte, et les visages se glacent face aux spécimens d'outre-mer. En cette pleine période d'exode qui accompagne l'exil, commence un triste épisode lorsqu'il débarque des îles. Pour finir empilé sur l'armoire du foyer, témoin du gain dur à envoyer. Souvenir terne d'une employée fidèle, toujours à la traîne derrière cet employé modèle.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, de près d'un quart de siècle mon aîné. Dire qu'en 62, les ruines encore traumatisées de Lomé jusqu'au port de Gorée. Elle témoigne de ses rêves en rupture de sève, à la levée des passerelles sous une averse de grêle. Le mistral du Grand Nord traverse sans jamais trahir le vieil héritage colonial dominé par les siècles, reliant le Havre et ses environs depuis la sinistre cale d'un navire d'embarcation. Quand même les rats et les cafards cohabitent en paix avec les symboles vulgaires de la France d'après-guerre, il se pourrait que cette valise confinée dans un coin hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin.
coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
Avec papier et sans papier.
Moi je m'appelle Ben Sarah Gafid, j'ai intégré la société, on m'a promis un contrat de travail CDI, j'ai dû donner 2500 euros pour avoir un CDI, mais finalement j'ai fini avec un contrat de professionnalisation d'une durée de 6 mois et sans promesse d'embauche valable, avec des conditions de travail pénibles. Et en plus, y a mes collègues, ils ont subi du racket, ils ont dupé des parfums, des paquets de cigarettes au chef et tout. Et là, on est là aujourd'hui pour dénoncer tout ça, pour dénoncer une situation vulnérable à l'égard des travailleurs sans papier. Et aujourd'hui, on veut qu'une chose soit d'avoir un CERFA et une promesse d'embauche pour qu'on puisse régulariser notre situation.
Tu peux me dire un peu comment ça s'est passé, puisque c'est un contrôle inopiné en fait, pour vous en arriviez là aujourd'hui, c'est un contrôle qui s'est fait. Tu peux nous expliquer un peu le déroulé de cette histoire?
Alors le déroulé, moi j'ai rencontré une personne qui travaille à Carrefour. Et la personne en question, il m'a promis un contrat de travail en CDI contre 2500 euros. Bah, j'ai donné 2500 euros, on m'a ramené ici et finalement j'ai signé un contrat de professionnalisation. Et en plus subventionné par Pôle emploi.
D'accord. Par France Travail donc aujourd'hui.
France Travail, d'accord.
Alors quand même, il faut que tu me dises aussi, c'est qu'il y a eu un contrôle de l'inspection du travail quand même sur tout ça.
Oui, c'est grâce à un contrôle d'inspection de travail qui a révélé tout ça. Et du coup, voilà, ils ont fait une enquête et ils ont découvert qu'il y a du travail illégal, travail dissimulé.
Alors aujourd'hui, donc ce 21 mai 2025, on est donc devant le carrefour de Quartz, du centre commercial Quartz à Villeneuve-la-Garenne. Donc là, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a pas mal de salariés qui sont sortis aussi. Je pense qu'on doit être à peu près une vingtaine, je veux dire ça comme ça. Comment vous avez mobilisé un petit peu au niveau à l'intérieur du magasin?
Bah en fait, les salariés qui sont en situation régulière et qui nous ont rejoints aujourd'hui, c'est nos collègues qu'on voit tous les jours. Bah on les côtoie tous les jours, on parle toujours, on a créé des liens. À force, moi j'ai fait 7 mois ici, on a créé des liens. Et du coup, comme ils sont au courant de la situation, bah ils sont venus pour nous soutenir.
Ça, je crois que c'est vraiment important parce que c'est vrai que c'est un lieu de passage important. Hein. Et c'est vrai que du coup, s'il n'y a pas vous, le magasin ne fonctionne pas en fait.
En fait, oui, c'est vrai. Là, nous, on est 7 sur le secteur PGC, c'est le secteur de grande consommation. 7 salariés au moins. Déjà, on est en difficulté avec tous les effectifs. Et là, moins 7 personnes, 7 salariés, ça va être très, très, très compliqué pour remplir les rayons et redresser le magasin.
Alors j'aimerais que tu m'expliques un petit peu le mécanisme justement, parce que voilà, c'est 2500 euros, le CDI. J'aimerais que tu m'expliques un peu ce mécanisme.
Bah en fait, nous, à la base, moi quand j'ai parlé avec l'intermédiaire, on nous a promis un CDI, 2500 euros, un CDI tout de suite. Nous, voilà, comme on est dans une situation vulnérable, avec un salaire, pardon, j'ai oublié qu'on promet aussi un salaire entre 2000 et 2500 euros. Et bah, pour moi, c'est une occasion, c'est une bonne occasion. J'ai sauté sur l'occasion, je suis rentré et finalement, j'ai fini avec un contrat CDD de 6 mois et en plus avec un salaire de 1400 euros.
Donc voilà aussi, il y a les questions du salaire. Toi, par exemple, ton salaire, il est à combien?
Alors, le salaire que j'ai reçu ici, c'est 1400 euros. C'est 35 SMIC de 35 heures.
Alors, il y a ça, mais on est venu te voir aussi, voilà, en discutant comme ça, on est venu te voir pour t'annoncer quasiment en début de matinée que tu allais être licencié.
En début de matinée, oui. Ouais. À la prise du travail, à 4h30. J'étais licencié entre 4h30 et 5h. Ouais.
Donc, on est venu te voir comme ça, à peine que tu prenais l'embauche, quoi.
Voilà. J'allais rentrer à travailler. Non, comme tous les jours. Et là, il y a le directeur régional et directrice des ressources humaines régionales
Ils sont venus, ils nous ont tous licenciés en même temps.
Alors, ce système, il existe au moins depuis 2024, apparemment, hein.
Apparemment, oui, voire même avant, parce qu'il y a même des salariés qui étaient là, qui ont subi les mêmes conditions que moi, mais ils étaient virés, en fait. Et là parce qu'il y a l'inspection de travail qui a révélé ça, sinon la situation ne sera jamais révélée.
Les mêmes systèmes, c'est-à-dire apporter une fausse carte d'identité pour signer un CDD de 6 mois.
Voilà, c'est ça. Moi, je connais deux personnes déjà, qui n'ont pas donné suite à leur contrat, alors qu'ils ont bien travaillé et tout. C'est dans le but de virer ces gens-là et reprendre encore d'autres gens.
Alors aussi, avec des conditions de travail quand même difficiles, tu peux nous en parler ?
Nous, on était embauchés sur les rayons les plus pénibles, rayons épicerie et liquide. Surtout rayon liquide, il y a une prise de travail qui est assez lourde. Les produits sont assez lourds et tout. Une charge de travail importante. Malgré tout ça, on a continué à travailler dans l'espoir d'avoir un CDI, d'avoir une promesse d'embauche. Et jusqu'à la situation, s'est révélée. Et voilà.
Donc aujourd'hui, on va dire que c'est une première journée. C'est une première journée aujourd'hui. Comment tu vois un petit peu, alors c'est difficile de dire lors d'une première journée, mais comment tu vois un petit peu la suite du coup ?
Je suis optimiste. J'espère que la direction va réagir assez vite pour qu'on puisse le contrat de travail et une promesse d'embauche pour qu'on puisse régler nos situations et reprendre le travail.
Alors dans les gens qui sont en grève, tout le monde a des papiers ou pas du coup ?
Non, les salariés en question qui sont dans la même situation que moi, ils n'ont pas. Mais il y a des collègues à nous qui sont en situation régulière et tout et qui nous soutiennent, comme vous voyez.
Alors ça, c'était vraiment bien parce qu'il y a aussi des gens qui sont sortis du magasin pour venir ici vous rejoindre aussi. Ça, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant aussi, quoi.
Oui. Moi, tout de suite, j'ai donné un flyer à un client et il a lu ma situation. Il était surpris. Il m'a dit, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable.
Ouais, peu de gens sont au courant, en fait, hein, parce qu'on vient, faire ses courses, voilà, et on ne sait pas ce qui se passe, le décor, quoi, derrière ce qui se passe, quoi.
Oui, les gens, ils sont dans l'emprise de menaces et ils ont peur de révéler la situation parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Et voilà, ils sont dans une situation vulnérable. Et on ne pourra jamais, l'enquête du travail.
L'inspection du travail.
L'inspection du travail, sans ça, on ne serait jamais révélé la situation.
D'où l'intérêt de renforcer les inspecteurs et inspectrices du travail aussi.
Bien sûr, c'est grâce à eux la situation elle est révélée, quoi.
Quelque chose que tu voudrais rajouter qu'on aurait oublié ?
Ce que je peux rajouter, c'est que ce que je demande à tout l'employeur de France, c'est qu'ils arrêtent de profiter sur la situation. Et quand il y a un salarié qui n'a pas de papier et qui est bon au travail, pourquoi on ne le recrute pas ? C'est un être humain. Et en plus, ce n'est pas un danger pour la société. On est là tous, on n'a pas de casier judiciaire, on paye nos impôts, on est là, on vit comme un citoyen lambda. On paye les impôts, on paye les abonnements, on paye tout. Mais on n'a pas le droit d'avoir les papiers et travailler sereinement comme n'importe quel employé lambda.
Voilà bien, on poursuit cette mobilisation qu'il y a devant le carrefour donc à Villeneuve-la-Garenne, hein, ce 21 mai 2025. Et on est avec l'un des salariés qui s'est mis en grève aussi et qui va se présenter.
Bonjour. Je suis employé commercial au niveau 1. Je témoigne aujourd'hui pour dénoncer une situation injuste que nous avons vécue, mes collègues et moi. On a monté dès le départ et nous a été demandé une somme d'environ 2 500 € avec la promesse d'obtenir un contrat CDI et un salaire mensuel de 2 800 €. Malheureusement, rien de tout cela n'a été respecté. Au contraire, après avoir travaillé dur, sous pression et dans les conditions difficiles, nous avons été mis en la porte sans explication. Partout, nous avons fait preuve de sérieux, de motivation et d'encourage. Nous sommes aussi conscients qu'une inégalité de traitement existe entre nous qui n'avons pas encore de papier et d'autres salariés en situation régulière. On confie systématiquement les tâches les plus pénibles et la discrimination est flagrante. Nous sommes ici pour revendiquer notre droit dans un pays où la justice et le droit du travail doivent s'appliquer à tous sans exception. Nous remercions vivement la CGT qui nous a soutenus dans ce combat et ainsi que la presse qui a donné de la visibilité à notre situation. Merci.
Tu es avec ou sans papier ?
Sans papier. Oui.
Depuis combien de temps tu es en France ?
Je suis là depuis 2023. Je viens ici pour travailler et aider ma famille. Et c'est pour ça que je cherche un travail pour aider ma situation. D'accord ? Je suis là depuis 2023. Je suis une bénévole avec une autre société. Je fais des prises de sang, j'ai fait tout. J'ai respecté, en général, j'ai respecté la loi française. Je viens pas ici pour vol et tout ça. Je viens ici pour travailler, c'est tout.
Tu viens pas pour vol, mais les autres te volent quand même.
Oui, exactement. On a entré dans le groupe des vols. Parce qu'on a besoin d'un travail. Ça, c'est le point faible pour nous. Les autres, ils nous disent, s'il vous plaît, quand tu veux le travail, tu as besoin de donner un montant de 2500 euros. Mais moi, j'ai pas. Même nous. Nous, ensemble, on n'est pas de cette somme. C'est pour ça qu'on a prendre l'argent de chez mes amis pour travailler.
Ouais. Parce que quand même, j'imagine que pour venir jusqu'en France, tu as dû déjà payer, je suppose. Pour pouvoir franchir les frontières et tout ça, tu as dû déjà payer, je peux supposer.
Oui.
Et donc, tu reviens ici, on te raquette encore une autre fois.
Exactement. Voilà.
Qu'est-ce que tu penses de ça ? C'est-à-dire, comme je disais, tu as dû payer pour venir en France, donc tu as pour franchir les frontières. Et de nouveau ici, toi, tu essayes de faire des démarches légales. Et de nouveau, on te raquette, on va dire, officiellement ici aussi. Quoi. Comment toi, qu'est-ce que tu en penses ?
Quand je viens ici, j'ai fait beaucoup de risques pour venir ici en France. Beaucoup de risques. Oui, et si j'ai perdu beaucoup de l'argent pour bien récupérer tout ça. Après, j'ai entré à cette groupe, j'ai trouvé aussi pour travailler, tu payes un montant de 2500 euros. Toujours paye. D'accord ? On a obligé pour faire ça, pour gagner, pour prendre l'argent, récupérer votre argent qu'on a déjà perdu. C'est pour ça, hein. c'est la stratégie à nous. Mais après, on a trouvé, arrêter le travail, je ne sais pas comment expliquer.
Vous avez décidé de vous mettre en grève.
On est là dans le grève pour aider notre situation. Ouais.
Parce qu'il n'y a que comme ça, parce que sinon ça pourrait durer des années comme ça en fait. Vous pourriez être exploité pendant des années.
Oh, bien sûr, exactement.
Comment entre vous, entre collègues, vous en avez discuté de ça ? Quel a été le déclic pour que vous mettiez en grève ? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes mis en grève ?
Tout d'abord, quand l'inspection de travail qui vient ici, ça y est, on a déclaré à le syndicat. Le syndicat, déjà, il venait aider nous. C'est pour ça qu'on va partir avec le syndicat et la CGT. Heureusement, on a trouvé des personnes qui aident nous, qui sont avec nous. Qui nous soutient. Parce que quand il n'y a pas le syndicat et la CGT, vous, on n'a fait rien. Ouais.
Et puis on peut souhaiter que d'autres personnes qui travaillent dans d'autres carrefours ou dans d'autres centres commerciaux comme celui-ci, bien ça puisse aussi les faire réagir. La situation que vous vivez, peut-être ça se passe aussi ailleurs.
Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'histoires, mais peut-être il n'est pas trouvé du soutien comme ça. Ouais.
Voilà, ben on va continuer un petit peu à interroger les salariés qui sont mis en grève. Et je suis avec l'un d'entre eux, mais qui va se présenter.
Bonjour, je m'appelle Ben Salah Etalib, j'ai 32 ans, j'ai travaillé chez Carrefour, j'ai travaillé sans papier.
Tu travailles à ce Carrefour ici, hein, donc au Quartz, à Villeneuve-la-Garenne. Depuis combien de temps?
Depuis six mois.
Depuis 6 mois, d'accord. Comment tu es arrivé ici?
Au Carrefour, j'ai payé 2500, j'ai don à l'ancien chef secteur. Il a été transféré à notre Carrefour au mois de février.
Et donc, voilà, il y a cette, comme d'autres salariés, d'ailleurs, on a fait des interviews qu'on va entendre. Toi, donc, tu es sans papier. Comment tu es arrivé en France?
J'ai arrivé par visa étudiant en Roumanie. Après, j'ai traversé quelques pays. J'ai traversé ces 4 pays, Hongrie, Serbie, Hongrie, Autriche, la Suisse. Après, j'ai pris le TGV à Paris. Ça, c'est au juillet 2023.
D'accord. Alors, j'imagine, comme d'autres, hein, ici, tu as dû payer, j'imagine, pour arriver jusqu'en France. Et on te redemande de payer ici encore.
Ah oui.
C'est incroyable. Hein.
Ah, tu payes la route, tu payes le loyer, tu payes comme tu travailles, c'est comme ça, tu es dans 2500. C'est trop. Hein.
Comment on te l'a proposé, ça, cette histoire de 2500? Tu peux nous raconter comment on te l'a proposé, cette histoire de 2500 euros? Comment on te l'a proposé?
Avec un intermédiaire. Il était employé niveau 1, intermédiaire entre nous et le chef secteur, l'ancien chef secteur. Il a dit, tu peux donner 500 euros tous les mois, mais dans le premier jour de travail, avant le signer de contrat, il fait la pression pour donner 2500. Moi, dans le premier jour, j'ai allé à la banque, j'ai retiré 1000 euros espèces. Après, au poste de travail du premier jour, j'ai envoyé 1000 euros sur Western Union. Et le jour, au soir, aussi, j'ai envoyé 500 euros par Western Union. C'est comme ça le
processus. C'est comme ça que ça se fait.
Ah, c'est oui.
Et donc, là où vous avez décidé de dénoncer avec, on l'a dit un peu plus tôt, avec aussi la visite de l'inspection du travail, il y a cette visite qui a un petit peu aussi fait que les choses se sont un peu accélérées. Et donc, vous avez décidé de vous mettre en grève.
Ah oui. Alors, on va raconter un peu l'histoire de mes collègues au travail. Alors, nous, le premier jour, il a dit, on va signer le contrat de CDI. Moi, je ne connais pas le contrat entre le CDI et le CDD. Alors, il est signé le contrat CDD, contrat professionnel,
Contrat à durée déterminée. Hein,
ah oui, c'est ça, oui. Oui. Après, dans le travail, il y a les conditions de travail, il y a la pression, il y a autre ordre. Tu ne travailles pas dans un rayon, tu travailles avec quelqu'un de rayon, tu aides les autres collègues, un ancien ETC. Tu fais le travail de comme tu ramènes les bennes, les palettes. Ouais. Tu fais beaucoup de choses.
Beaucoup de manœuvres, quoi.
Ah, manœuvres, oui, c'est comme ça. Ouais. Ouais.
C'est ce qui permet au magasin d'avoir cette cette apparence propre, tout rangé, tout ça. Mais avant ça, il faut que vous, très tôt le matin, il faut que vous veniez installer tout ça.
Oui, tu fais beaucoup de choses.
À quelle heure tu démarres?
J'ai commencé le mardi. Vendredi, je commence à 5h, vers 11h30. Sauf le samedi et lundi, je commence à 4h, vers 10h. Ah oui, du matin, vers 10h30. Mais tu prends le bus du nuit, etc., parce que tu es loin. Voilà. Moi, je prends deux bus du nuit. Je prends un bus ici à Gare de l'Est. Je prends un autre bus de Gare de l'Est vers les Grésillons, j'ai marché un peu kilomètre au travail.
Ça, c'est intéressant parce que du coup, on ne sait pas trop comment ça se passe comme ça. Hein. Je disais, ouais, on voit le magasin tout propre, enfin, tout beau. Mais pour que ça arrive comme ça, il faut que vous, les petites mains, quand j'ai petites mains, c'est pas péjoratif, mais il faut que vous installiez tout ça. Vos collègues, donc pareil comme vous, se sont mis en grève. Comment vous en avez discuté de vous mettre en grève? Comment vous en discutez entre vous?
Ici, on va discuter avec le CGT de Carrefour. Ici, on va faire un groupe par WhatsApp, etc. Appeler, on va aller à le coin, un peu. Parce que il y a des collègues, on ne connaît pas la situation là. Parce qu'ils sont papiers, tu vois, le contrôle, le risque. Et les pauvres, c'est obligé. Comme ça, moi, après le il y a trois collègues, il a fait une convocation avec l'inspection de travail. Il parle avec l'inspection de travail, il va donner une feuille qui met les contrôles, etc. Il n'y a pas de souci. C'est comme ça on va.
Et puis, il faut expliquer aux gens qui ne maîtrisent pas forcément la langue aussi.
Ah oui,
c'est important parce que, comme disait un de tes collègues, il y a des gens qui se sont fait avoir parce qu'ils ne maîtrisaient pas la langue. Donc, il faut expliquer aussi, justement, pour pas qu'ils se fassent avoir une nouvelle fois.
Ça. Oui, c'est ça. Il y a des collègues qui ne maîtrisaient pas la langue. J'ai beaucoup. Je crois, moi, Yassine et l'autre, Hafid. Hafid, il expliquait bien la langue. On va mettre très près avec l'avocate, avec le CGT, avec les...
Alors aujourd'hui, c'est le premier jour de mobilisation aujourd'hui, ce 21 mai. Alors, il y a des négociations, apparemment, je crois que vous avez demandé avec des négociations avec la direction. Qu'est-ce que tu en attends de... Qu'est-ce que vous revendiquez? Voilà, commençons par...
Ici, on attend pour donner le premier embauche et le CERFA pour régulariser mon situation, tout le monde ici. Les collègues, les 8 collègues, je crois. Les 8 collègues. Ça, ça parle.
Et donc, vous avez été soutenu aussi par d'autres personnes du magasin qui sont sorties, qui vous ont rejoint aussi. Hein, des gens qui sont en situation tranquille, quoi, normale, régulée et tout. Et donc, ils sont venus vous rejoindre aussi.
Ah oui, les filles de solidarité. Je remercie mes collègues qui font la solidarité. Ah oui, il y a ici qui travaille avec nous. Ils travaillent à notre rayon, en bas, en haut.
Ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canassil, à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.